Conférence privée du noviciat par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 25 mars 1993.
Comment peut-on parler de la psychologie du démon si le principal du tissu psychique est d'ordre sensible et le démon est un être purement spirituel? Très bien. Venez, c'est une métapsychologie. Et donc tout est dans le méta. Vous comprenez que si on parle de la psychologie du démon, elle est totalement différente de la nôtre. Ça, c'est sûr. Et je peux en parler. Parce que le démon vit une vie spirituelle inversée. Parce qu'il n'a plus de finalité. Alors comment il vit? Sans finalité. Il vit de son conditionnement. Il en a un, puisqu'il est une créature. Mais il a un conditionnement fameux. Le conditionnement de l'orgueilleux. C'est même très intéressant à creuser. C'est très intéressant. Il y a une thèse de théologie magnifique à faire là-dessus. Oui. Parce que le fond démon, non sensible mais psychique, dans le sens où métapsychique, si vous aimez mieux, le spirituel non finalisé se replie sur lui-même, sur sa propre conscience qu'il a de lui. Et c'est en se repliant sur lui-même qu'il refuse l'ordre de Dieu, considérant qu'il est lui-même sa propre fin. Que son développement, son épanouissement consiste à être parfaitement lui-même. L'épanouissement du démon consiste à rejeter la dépendance à l'égard de Dieu pour avoir son autonomie parfaite d'esprit, d'une intelligence très, très spirituelle. Non rationnel et une intelligence qui veut tout ramener à ce qu'elle comprend et refusant tout ce qu'elle ne comprend pas, et c'est ça son propre développement. Quand un être humain dit s'épanouir autant qu'il voudrait, on aurait toujours envie de dégonfler la baudruche. Qu'est-ce que vous voulez dire, votre épanouissement? Qu'est-ce que c'est que votre épanouissement? C'est une image dont vous vous êtes faite de vous. Forcément. Pas assez épanoui. Donc il est en dehors du réel. Quand je reconnais que je suis pécheur et que je n'atteins pas ma finalité, je reconnais que je suis pécheur. Et à ce moment-là, je supplie Dieu d'être là pas, je suis pas épanoui. Je suis pas épanoui. J'ai jamais pensé à ça, grâce à Dieu. Je suis pas épanoui. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis pas épanoui? C'est mal dans votre peau. C'est possible, n'accusez pas les autres, c'est peut-être vous. Hein. Parce que vous voyez, vous avez grossi beaucoup, beaucoup. Votre peau est restée la même. Vous avez maigri, vous êtes mal dans votre peau parce qu'il y a du flottement. Vous voyez, il y a un flottement assez fort pour le démon. Il était un ange lumineux dans la foi, l'espérance et la charité. Puis la tentation est arrivée, il a refusé à Dieu. Non, servira. Je ne servirai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas de ne pas comprendre. Et ce que vous dites n'a pas de sens pour moi. Parce que ça ne m'épanouit pas. Donc je vais passer devant le bien divin, mon épanouissement. Oui. Donc, c'est bien ce qu'il y a de plus net dans la psychologie. Cette attitude du démon. Son tissu psychique, métapsychique de lui, c'est tout simplement le retour sur son propre conditionnement. Son épanouissement et un conditionnement imaginé, imaginatif. Le démon n'a pas d'imagination. C'est vrai, il a son tissu métapsychique de ce qu'il aurait souhaité être. Donc, quand vous pleurez sur votre non-épanouissement, vous pleurez sur quelque chose qui était votre idéal et qui ne s'est pas réalisé. Donc vous restez, vous, dans l'imaginaire, et le démon reste dans un méta-imaginaire, le repli sur lui. Et alors c'est ça que je dis que c'est extrêmement intéressant, parce que ça montrerait que pour le démon, son métapsychisme, c'est l'attitude de l'orgueil. Et alors, est-ce qu'au fond, ce n'est pas vrai pour l'homme? Ce que j'ai essayé de vous expliquer ce matin, qu'au fond, au cœur de toute attitude psychologique, c'est le remplacement de la finalité par son propre développement. Son propre épanouissement. Je crois que c'est ça qui est au cœur, toujours, de tout psychisme. Comprenez bien, je ne parle pas de la psychologie, je parle de ceux qui mettent la psychologie au-dessus de tout. C'est ça qu'on appelle le psychisme. Mais la psychologie a quelque chose de bon. C'est bien évident qu'elle a quelque chose de bon. Mais attention, le jour où la psychologie remplace la philosophie, ou ne veut pas de la philosophie. La plupart des psychologues ne veulent pas de la philosophie. Et leur psychologie veut remplacer la philosophie. Donc, dans leur perspective, la réflexion sur eux-mêmes remplace la finalité. C'est eux qui portent leur propre finalité. Seconde question. Tu as voulu unir l'homme et la femme pour qu'il y ait un épanouissement total entre eux dans l'ordre de l'amour. Est-ce que c'est le but de Dieu? Je ne sais pas si c'est dans l'ordre de la sagesse. Tu as voulu les unir pour qu'ils s'aiment. De la cause à l'effet, que l'amour nous épanouisse, excellent de poser les questions. Parce qu'on voit les confusions. Et c'est pas moi qui les invente. Parce que vous pourriez tout dire, ah, ils les inventent pour bien... pour faire marcher sa marchandise. Pas du tout, c'est ça. Elles existent. Bien plus que vous ne pensez. On ne les voit pas d'habitude, ça glisse. On est toujours un peu complices. Alors, Dieu a voulu, écoutez bien. Dieu a... Et tout le monde aurait pu écrire ça. Faut pas que celui qui l'a écrit fasse un petit complexe. Surtout pas, tout le monde aurait pu l'écrire. Dieu a voulu unir l'homme et la femme pour qu'il y ait un épanouissement total entre eux dans l'ordre de l'amour. Pour qu'ils s'aiment, c'est l'amour qui est finalité, c'est pas l'épanouissement qui est finalité. Oui. Oui, c'est très beau comme glissement. On passe de la cause à l'effet. Et alors, ça se voit tout de suite. On aime un autre et c'est nous qui sommes épanouis. C'est pour ça que chaque fois que j'aime en disant j'aime gratuitement, n'est-ce pas, la fameuse acte gratuite de Sartre, j'aime gratuitement. Nous ne pouvons pas nous aimer gratuitement. Chaque fois que nous aimons, il y a un épanouissement pour nous. Alors nous ne cherchons pas cet épanouissement en premier lieu. C'est évident. Si on cherche cet épanouissement en premier lieu, on n'aime plus. Mais chaque fois que j'aime, chaque fois que je me dévoue, chaque fois que je fais mon devoir d'État, je m'épanouis. Donc je n'ai pas à me demander si je m'épanouis ou si je ne m'épanouis pas. Ça y est. Parce que j'aime, parce que je fais mon devoir d'État, parce que je suis généreux. Et chaque fois que vous refusez quelque chose à Dieu, vous vous repliez sur vous. Et vous cherchez votre épanouissement. Celui qui pleure sous son épanouissement, c'est parce qu'il a refusé quelque chose à Dieu. Au niveau humain, il y a donc dans le vœu de chasteté parfaite un vide pour le religieux. Eh bien non, il y a un plein. C'est très joli ça. On voit très bien, il l'a fait, il faut le blaguer. Bon, au niveau humain, il y a donc dans le vœu de chasteté parfaite un vide pour le religieux. Peut-on dire que Marie a un rôle particulier exercé par rapport à ce vide chez l'homme religieux consacré? Ah, alors voyez, là encore, faites attention. Quel est-il? Si vous dites, bon, je fais le vœu de chasteté, j'ai un vide, Marie sera bien obligée de le remplir. À ce moment-là, vous voyez, vous louchez. Le vœu de chasteté parfaite ne peut se faire que pour Dieu et pas pour Marie. C'est pour Dieu. Et donc, c'est pourquoi? C'est pour recevoir en plénitude l'amour de Dieu. C'est pour ça. C'est pas pour autre chose. C'est pour ça que saint Thomas maintient que l'esprit de virginité ne peut être vécu que s'il y a soif de contemplation. S'il n'y a plus soif de contemplation, l'esprit de virginité ne peut plus être vécu. Je ne peux pas vivre de l'esprit de virginité uniquement pour la charité fraternelle. Oui, ce qu'on dit de temps en temps, je sais que ça a été dit, je ne dis pas qui, mais on a trouvé ça admirable. Je me vois encore les personnes qui m'ont dit ça. Oh, c'est admirable, je dis, c'était religieux. Alors, ils ont dit, voyez, il y avait une critique là-dessus. Voyez, si je n'avais pas fait le vœu de chasteté, si je ne vivais pas pleinement le célibat consacré, je ne pourrais pas vous recevoir. Donc, grâce à ce vœu de chasteté, cinq religieux, si vous voulez. Mais ils sont bien plus accueillants que cinq religieux. Ils ont de quoi ? Des ressources. Beau petit chalet. Ils reçoivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne les emplit pas. C'est merveilleux. Donc ils ont les bras grands ouverts tout en étant mariés. Vous voyez, ça, c'est toujours la même chose. C'est qu'on oublie la finalité, qu'on regarde les conséquences. C'est très vrai.
J'ai entendu plus d'une fois.
Là, il faut qu'on puisse homme est radicalement animal religieux. Radicalement. Et parce que, dans l'ordre surnaturel, Jésus a tout donné pour notre salut, pour chacun d'entre nous, et qu'il nous a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour celui qu'on aime. Et le vœu de chasteté, c'est donner sa vie pour Jésus. Et la donner de la manière la plus radicale qui soit. Il y a un radicalisme très très grand dans l'esprit de virginité et dans le vœu de chasteté parfaite. C'est quelque chose de très très radical qui énerve les psychologues. Ça, c'est les psychologues, encore une fois, qui rejettent la philosophie qui veut être la détermination de la vie humaine. Déterminer le point de vue humain. Donc, on voit, et je rappelle là, la finalité propre de la chasteté parfaite. Alors, vous comprenez, une fois que j'ai compris ça, je ne peux pas dire qu'au niveau humain, il y a, dites au niveau psychologique, là serait juste, au niveau psychologique, il y a donc dans le vœu de chasteté parfaite un vide pour le religieux. Au point de vue psychologique, je serais assez d'accord, mais pas humain, parce que l'aspect religieux est humain, et l'aspect religieux donne la raison radicale de la chasteté parfaite par l'adoration. Vous voyez ? Alors je passe, il y a trois niveaux. Hein. Respectez toujours ces trois niveaux. Le niveau psychologique, le niveau humain, le niveau divin. Alors le niveau psychologique, en philosophie, je ne le vois pas beaucoup. Je le vois plus quand, de fait, on est obligé de le voir. C'est le pos, c'est le comment. Le niveau humain, c'est la finalité. L'homme est fait pour aimer. Force vive tendent vers l'amour et la cela, parce qu'elle est la première parmi toutes les créatures à être consacrée à Dieu. C'est le mystère d'aujourd'hui, vous voyez, c'est pour ça que c'est bien. C'est providentiel, ça. L'Annonciation montre le primat de l'esprit de virginité dans le cœur de Marie, bien qu'elle soit fiancée à Joseph. Il y a une contradiction apparente dans le texte de Saint-Luc, voulu par l'Esprit-Saint. Consacrée, elle est fiancée à Joseph. Je ne connais point d'homme. Expliquez ça comme vous le voulez. C'est à partir de là que les pères de l'Église ont parlé de la consécration totale de Marie à Dieu. Dans le même texte, fiancé à Joseph. Mais normalement, quand on est fiancé à quelqu'un, mais alors vous allez dire, je ne connais point d'homme, c'est-à-dire, je ne vis pas encore avec lui. Oui, mais vous êtes fiancé, donc vous êtes appelé. Alors c'est une question de temps. Marie devrait répondre, pas tout de suite. Là, elle dit carrément, non, je ne connais point d'homme. C'est absolu. Donc si je prends la phrase de Marie, c'est absolu. Or, il dit fiancé à Joseph. Donc ce qui prouve que ses fiançailles à Joseph ont maintenu dans son cœur l'esprit de virginité et sa consécration totale à Dieu. Et elle sait que l'ange comprend, parce qu'il est très intelligent. Marie aurait dû penser aux exégètes futurs, qui auraient mal compris, qui comprendraient mal, elle aurait dû donner bien plus d'explications. Vous savez bien, je me suis consacré à Dieu telle date. Alors, voyez bien. Donc, elle dit les choses comme Marie les dit tout le temps. Elle a toujours cette attitude-là, comme Marthe avait ça, une simplicité absolue. Vous comprenez pas? C'est dommage. Mais on continue. C'est très très absolu, ça. Et c'est beau ce langage-là, je trouve ça admirable, parce que ça nous remet dans la vérité. C'est quand on explique de trop, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Parce que c'est net, je ne connais pas d'homme. Fiancée à Joseph, je ne connais point d'homme. Mais elle a quand même dit, je suis vierge. Consacrée. Je ne veux pas connaître d'homme, puisque je suis totalement donné à Dieu. Alors, comprenons bien comment Marie réaffirme à Gabriel son don total à Dieu, comme elle l'a fait à Joseph. C'est pour ça que le mystère de l'Annonciation, c'est aussi la fête de la virginité de Marie et de la virginité chrétienne. Et cette virginité, cette consécration de Marie à Dieu, cette consécration totale de Marie à Dieu, Dieu s'en sert divinement, comme Dieu seul peut s'en servir. L'Esprit Saint la prendra sous son ombre. Donc, virginité et maternité divine ne s'opposent pas. Expliquez ça psychologiquement. Virginité et maternité divine ne s'opposent pas. La ratio, mais je vais jusqu'au bout au point de vue théologique, hein, la ratio de la virginité, ce qu'est la virginité, ne s'oppose pas à la maternité, à la raison de maternité, selon des conditions très particulières. C'est bien évident. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Elle est vierge, elle est mère, elle est vierge. Je dirais même, voyez, que cet état de vierge consacrée à Dieu est comme une disposition à la maternité divine. Puisque cet état de virginité, cette consécration totale à Dieu de son âme et de son corps, attire l'Esprit Saint. Esprit-Saint d'agir comme il aime d'agir directement comme seul il peut agir, et il agit de cette manière. Elle est donnée à son esprit de virginité, elle est donnée selon deux modalités différentes. Et c'est pourtant le même don substantiel. C'est Marie dans sa personne qui est donnée à la religieuse consacrée, contemplative, et à l'homme consacré à Dieu. Elle va permettre à la virginité consacrée de devenir source de vie divine. Et elle va permettre à la vie apostolique, celle du sacerdoce ministériel et celle de la grâce sanctifiante, toutes les deux, de connaître un épanouissement nouveau. Il est sûr que Marie, donnée au prêtre, donnée à Saint Jean, permet à la vie apostolique de Jean de connaître une modalité toute spéciale. Il est sûr que Marie, donnée à Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, à Saint Maximilien Kolb, au souverain pontife actuel, fait que ces apôtres ont dans leur avis apostolique, une modalité tout à fait particulière, parce que leur vie apostolique est marquée du don de Marie. Marie leur étant donnée par Jésus, par l'Esprit Saint, fait que leur vie apostolique a une fécondité unique. Donc vous voyez, la question posée, pour répondre à cette question-là, la place de Marie est-elle alors différente dans la vie consacrée de l'homme et celle de la femme? Comment vous le comprenez? C'est la même personne dans sa virginité, sa maternité qui est donnée, mais elle est reçue différemment chez la femme et chez l'homme consacré à Dieu, et elle a un rôle différent de rayonnement de la maternité virginale chez la contemplative. Personnellement, je me souviens très bien au noviciat, j'étais voir le père maître en disant, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait beaucoup mieux que je sois frère convert pour être plus contemplatif? Et c'est le père maître qui m'a donné un ordre, non, pour l'Église. Et c'est très, très fort ça. Et je crois que dans toute vie religieuse, il y a ça. On désire être consacré totalement et uniquement à Dieu. Parce que la vie religieuse suffit à finaliser toute notre vie comme moyen conjoint à la contemplation. On va dire que la vie religieuse est pour le sacerdoce. Non, la vie religieuse n'est pas pour le sacerdoce. Je dirais plutôt l'inverse. Le sacerdoce est pour la vie religieuse. Ça, c'est sûr. Le sacerdoce ministériel est pour la vie religieuse. Puisque on aide les contemplatives et on s'aide soi-même pour être contemplatif. Et donc, la vie religieuse n'est pas finalisée par le sacerdoce ministériel. Notre sainteté relève en premier lieu notre vie religieuse et non pas de notre sacerdoce ministériel. Notre sainteté relève en premier lieu de notre grâce sanctifiante et c'est notre grâce sanctifiante qui nous fait comprendre ce que c'est que la vie religieuse. Très important de comprendre cela pour être dans la vérité. Et si on ne le comprend pas, il faut essayer de voir pourquoi on ne le comprend pas. Donc, sortir toutes les objections pour qu'on soit suffisamment limpide pour comprendre cette vérité. Parce que ça, c'est très important. Ça rectifie radicalement notre don à Jésus. Le don à Jésus suffit à tout. Il est l'absolu. Et c'est l'esprit de virginité qui permet ce don absolu. Alors vous voyez, là, on dépasse la différence psychologique qui peut exister entre la contemplative et l'homme contemplatif. Et il reste vrai que le don de Marie n'est pas le même dans une vie contemplative pure ou dans une vie contemplative qui demande de rayonner. De mieux comprendre la distinction entre Thank you.